Sujet de discussion.
Présentation, Sonia Nzian.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à votre espace de discussion, aujourd'hui axé sur la drépanocytose. La drépanocytose, sachez-le, est la maladie génétique la plus répandue au monde, avec plus de 50 millions de personnes atteintes selon l'Organisation mondiale de la santé. Sur ce mal découvert chez la race noire en 1905, nous essaierons d'en savoir plus sur la réalité et la prise en charge, les avancées. En tout cas, tout de suite, nous allons recevoir Dr Kwame Nant Sidoni. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes hématologue au CNTS, Centre National de Transfusion Sanguine, et vous êtes avec Maïmouna Fondio. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la vice-présidente de l'Association des drépanocytaires et thalassémiques de Côte d'Ivoire, ADTCI.
En effet.
Merci d'être là. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que c'est que la drépanocytose? Docteur Kwame Nant.
Merci. Il faut dire que la drépanocytose est une maladie héréditaire. C'est une maladie qu'on acquiert de ses parents, père et mère. Et on naît avec la drépanocytose et on meurt avec la drépanocytose. C'est une maladie, il faut apprendre à vivre avec. Voilà. On n'en guérit pas, mais on améliore le confort de vie des drépanocytaires.
D'accord, vous anticipez en tout cas sur une question qui était déjà prévue. Mmh. Est-ce qu'on guérit de la drépanocytose? Apparemment non. Mmh. On naît avec et on meurt avec.
C'est ça.
Il faut savoir juste vivre avec cette maladie.
C'est ça.
Alors, quelles sont les causes de la drépanocytose?
Comme je le disais tantôt, c'est une maladie héréditaire. Mmh. Et on parle de drépanocytose quand on parle d'hémoglobine S. L'hémoglobine S, c'est dû tout simplement à une mutation au niveau de la chaîne bêta de l'hémoglobine.
Est-ce que c'est possible de simplifier tout
oui,
ça?
Oui, c'est juste
pour les
quand
auditeurs.
Je dis mutation au niveau de la chaîne. Bon, c'est l'hémoglobine, c'est cet élément qui sert au transport de l'oxygène au niveau de l'organisme.
En principe, la bonne forme, entre griffes,
voilà,
quelle est la bonne forme de
l'hémoglobine?
Oui.
La bonne forme, c'est AA. Et la drépanocytose, c'est S. Et il y a quatre formes majeures dans la drépanocytose. Il y a la forme SS, il y a la forme SFA2, il y a la forme SAFA2 et la forme SC. Ce sont les formes majeures. Maintenant, il y a la forme mineure qui sert de transmission, c'est la forme AS. Le sujet AS est un porteur sain. Il a certes une hémoglobine qui est S, mais il faut qu'il y ait une association de cette hémoglobine S-là avec une autre hémoglobine qui est anormale pour qu'il y ait manifestation de la maladie.
D'accord. Mm. Comment est-ce qu'on sait qu'on est atteint de drépanocytose?
Il y a les signes d'appel. Les signes d'appel sont variés en fonction de l'âge du patient. Le nouveau-né et l'enfant, on a le syndrome pied-main, le dos des pieds et de la main qui sont enflés. Et puis, il y a l'anémie qui est aussi un signe d'appel. Quand le sujet atteint un certain âge, il a l'adolescence, c'est des douleurs osseuses et des douleurs articulaires. Ce sont des signes d'appel. Mais pour poser le diagnostic de la drépanocytose, il faut faire ce qu'on appelle l'électrophorèse de l'hémoglobine. Et c'est l'électrophorèse de l'hémoglobine qui permettra d'avoir toutes les fractions de l'hémoglobine qui peuvent poser le diagnostic de la drépanocytose.
Maïmouna Fondio, c'est vrai que vous êtes de l'association des drépanocytaires et thalassémiques de Côte d'Ivoire, ADTCI, mais vous êtes également drépanocytaire vous-même.
Effectivement.
Alors, comment est-ce que vous avez su pour votre maladie?
La maladie a été sue depuis la naissance déjà dans les premiers mois, 3-4 mois. J'ai déjà commencé à faire les premières crises. Comme le docteur l'a dit tout à l'heure, les signes de mains enflées et pieds enflés. Et c'est comme ça. Au début, ma maman pensait que c'était une maltraitance de la nounou parce que quand elle rentrait du boulot et que elle me trouvait, je pleurais, j'avais les mains enflées, les pieds enflés, j'étais douloureuse qu'on me portait. Pour elle, sûrement, on m'avait fait tomber ou bien on m'avait sûrement déboîté quelque chose pour que j'aie les membres aussi enflés. Et lorsque on m'a emmené à l'hôpital voir le pédiatre, dès qu'il a vu les signes, les symptômes-là, il a dit, je pense que votre s'il y a une maladie génétique qu'on appelle la drépanocytose. À l'époque, c'était vraiment assez rare. Et
quand vous parlez d'époque, quelle année? Voilà,
83.
Mmh, d'accord.
Dans les années 83. Donc, du coup, mes parents n'avaient jamais entendu parler de cette maladie avec un nom aussi compliqué, drépanocytose. Donc, quand on leur a dit ça, c'était vraiment, tout le monde avait peur, on ne comprenait pas trop ce qui se passait. Et il a fallu qu'ils me fassent l'électrophorèse pour confirmer le diagnostic de mon pédiatre, que j'étais drépanocytaire AS. C'est ce qu'on avait dit, mais bon. Au fur et à mesure que je grandissais, on disait AS, c'est pas si grave que ça, c'est juste des traces de la drépanocytose.
Comme le médecin le disait à l'instant, voilà, une forme mineure.
Une forme mineure. Mm-hmm. Mais pour une forme mineure, je faisais pratiquement des crises chaque mois. On était pratiquement tout le temps hospitalisé, on était tout le temps à l'hôpital. Et là, à l'âge de 7 ans, on a demandé à mes parents de refaire l'électrophorèse parce que c'était pas normal qu'un enfant AS fasse autant de crises. Et lorsqu'on a refait
l'électrophorèse,
on a dit cette fois-ci que j'étais SSFA2. C'était beaucoup de crises. Et le fait aussi que mes parents, fonctionnaires à l'époque, voyageaient beaucoup. Donc, on nous affectait. On faisait trois ans dans telle région. Après, on t'affecte dans une autre ville de l'intérieur. C'était difficile. Avoir accès aux soins était difficile. C'était vraiment une époque assez difficile parce que je n'étais pas la seule de la famille. Et chaque fois, il fallait que les parents laissent mes soeurs toutes seules à l'intérieur du pays et m'accompagner pour les hospitalisations, les soins. Donc, je veux dire, toute la famille a contribué à mon bien-être.
D'accord. Docteur Kouamenan, quelle est la réalité de la maladie en Côte d'Ivoire?
La prévalence est de 14% de la population, mais c'est le trait S. Ce n'est pas la maladie drépanocytaire en elle-même. C'est-à-dire que quand on regarde, il y a 14% qui portent l'hémoglobine S. Et pour ceux qui font la maladie, on a environ 9% de la population qui portent la forme majeure de la maladie. Et avec le brassage des populations et tout, il faut dire que la maladie est répandue plus ou moins sur toute la Côte d'Ivoire. Toutes les régions sont touchées par cette maladie.
Maïmouna Fondio, pour revenir à vous, comment est-ce que vous vivez au quotidien avec la drépanocytose?
Déjà, je veux dire que c'est un challenge chaque jour pour moi. Parce que vu les crises douloureuses qu'on ressent tout le temps à cause de la maladie, les complications, parce que j'ai développé énormément de complications. C'est pas facile, mais on fait avec. Moi, je suis une personne, j'ai accepté la drépanocytose. J'ai fait de la drépanocytose une alliée parce que je me dis, la combattre, tu n'y peux rien. Elle vit en toi. Donc, j'ai accepté le fait qu'elle soit là et puis je la domine. Je la domine comment? C'est vrai, je sais que tu es là, mais je sais que tu n'aimes pas tel truc. Elle a des totems. La fatigue, le stress, les infections, les maladies opportunistes. Tu fais un palu, c'est sûr que ça va déclencher une crise. Donc, déjà, il faut pouvoir dormir sous des moustiquaires imprégnés pour éviter au maximum d'avoir le palu. Se reposer quand il le faut. Quand tu te sens fatigué, il faut pouvoir te reposer. Éviter au maximum le stress. Boire beaucoup d'eau, s'hydrater, parce que la déshydratation aussi engendre des crises. Donc, quand tu sais qu'il y a beaucoup de petites choses auxquelles tu dois t'adapter pour éviter d'avoir des crises, c'est prenable. Mais bon, le corps est ce qu'il est. Tu as mal au dos, tu as mal à la poitrine, tu as mal aux jambes et tu te rends à l'hôpital. Et quand il y a une crise, les médecins savent automatiquement qu'il y a eu un facteur déclenchant. Il y a quelque chose qui t'a emmené à avoir la crise. Chaque fois qu'un drépanocytaire fait une crise, il y a un facteur qui a déclenché cette crise. Elle ne vient jamais seule, au fait.
Vous avez parlé de complications de la maladie tantôt.
Oui.
Dans votre cas, quel impact la maladie a eu sur votre corps?
Déjà, ce qui est visible, l'handicap qui est visible, ce sont les béquilles que je porte pour marcher. J'ai subi deux interventions pour des prothèses de hanches parce que j'avais les hanches qui étaient nécrosées et donc je n'arrivais plus à marcher.
C'était... Alors quand on parle de nécrosées, pour permettre une bonne compréhension.
D'accord. Au fait, on a la tête de l'os de la cuisse qui se frotte à la hanche chaque fois qu'on marche. Et il y a un cartilage qui recouvre cette tête-là. Chez le drépanocytaire, vu qu'il a des globules rouges mal formés, ce cartilage-là n'est pas nourri assez suffisamment comme il le faut. Et les globules mal formés ne passent pas toujours dans les vaisseaux sanguins comme il le faut. Donc, ils agressent les vaisseaux sanguins. Du coup, le cartilage qui est mal nourri par le sang se détériore, il se nécrose, c'est-à-dire il devient des plaies. Vous voyez la cuisse de poulet, le cartilage qui se trouve juste au-dessus, comme si on l'a mâché, on l'a enlevé. Du coup, le frottement se fait os à os, c'est-à-dire l'os de du fémur contre l'os de la hanche, et c'est douloureux. C'est comme s'il y a des plaies, donc du coup, c'est douloureux. Et ça empêche de marcher, c'est des douleurs la nuit, tu ne peux même pas te retourner sur ton lit. Au fait, ça détériore la qualité de vie. C'est des douleurs permanentes. Donc, quand on décèle cette complication-là, c'est-à-dire les nécroses de tête fémorale, ça peut être un pied ou bien au niveau des deux hanches, la seule solution, c'est de faire une intervention, enlever cette tête qui est nécrosée et mettre une prothèse. Et après 6 ans de bataille, parce que je voulais vraiment pas faire l'intervention, je me suis dit, c'est une intervention tellement lourde, ça coûte cher, tout ça. Est-ce que on pourra le faire? Mais arrivé un moment, il fallait faire un choix. J'arrivais plus à marcher. J'avais une très mauvaise qualité de vie. Au fait, je n'avais plus de vie. J'étais tout le temps à la maison. Tu ne peux pas dormir les nuits parce à cause des douleurs. Donc, j'ai pris la décision d'en finir et de mettre de nouvelles prothèses. Et c'est comme ça, on a opéré mes deux hanches et je porte aujourd'hui 2 prothèses de hanches au niveau des deux hanches. La convalescence est longue, pénible, c'est pas facile. Faut pas qu'on se mente, hein. C'est pas un tour de baguette magique et puis tout rentre dans l'ordre. Faut faire de la kiné, c'est des séances de kiné. C'est des médicaments à prendre pendant longtemps, des antibiotiques pour éviter tout type d'infection. Et puis, c'est encore d'avoir une nouvelle hygiène de vie parce que tu portes des prothèses, tu n'es plus normal, tu n'as plus ce que Dieu t'a donné, ce avec quoi tu es né.
Donc, un corps étranger.
Voilà, tu as un corps étranger dans ton corps, donc il faut te réadapter. Dans ton environnement, il faut éviter les chutes, il faut éviter plein de choses. Okay. C'est une nouvelle hygiène de vie que je dois apprendre encore. Okay. Mais outre ça, il y a eu d'autres complications telles que des ulcères de jambes. C'est un sujet assez tabou en Afrique parce que il y a de nombreuses personnes qui ont ce problème-là mais qui le cachent. Et les ulcères de jambes, c'est quoi? Ce sont des plaies au niveau de la jambe qui ne guérissent pas. Donc, vous pouvez voir dans la rue quelqu'un qui a une plaie, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, sa plaie n'a jamais guéri. En Afrique, on dit, tu es sorcier, c'est ton pied, on prend pour couper la viande. Alors que malheureusement, c'est une maladie. Moi, j'avais des plaies au niveau des deux jambes. Ces plaies ont duré 5 ans pour guérir. 5 longues années pour guérir. Et je vous avoue que c'est vraiment un calvaire parce que sont des plaies douloureuses et elles sont très douloureuses les nuits. Que les nuits. La journée, tu peux vaquer à tes occupations, mais la nuit, c'est là que tout se passe, des douleurs atroces. Pour traiter encore ces ulcères de jambes, ça coûte cher, docteur est là.
On aura le temps de parler du coût de la prise en charge avec...
Donc, ce sont des échanges transfusionnels pour vous permettre de guérir. Et le traitement, ce sont des soins. Il faut toujours traiter la plaie, faire les pansements, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et hygiéniquement, tu ne peux pas te promener tout le temps. Pendant 5 ans, il y a des bandes sur le pied. Esthétiquement, ce n'est pas joli. Donc, vous vous imaginez le calvaire. Et il y a beaucoup d'autres complications. Les AVC, Dieu merci, j'en ai pas fait, mais il y a d'autres drépanocytaires qui en souffrent. Des douleurs atroces au niveau du thorax qui t'empêchent même de bien respirer. Ça, c'est des urgences. Faut se rendre automatiquement
à l'hôpital
pour bénéficier d'une prise en charge adéquate. Ça, ce sont pas des crises qu'on peut gérer à la maison.
Alors, docteur Kouamenan, on a écouté le témoignage de Maïmouna Fondio. Est-ce que les crises favorisent les séquelles?
Oui, il faut dire que c'est les crises à répétition qui favorisent les complications. On a deux types de complications. On a les complications aiguës et puis on a les complications chroniques. En fait, tout ce qu'elle a cité sont des complications chroniques liées aux crises à répétition. Il se déforme et le globule rouge du drépanocytaire, il a perdu cette capacité de se déformer pour passer dans les petits vaisseaux. Donc, au niveau des petits vaisseaux, il bouche les petits vaisseaux. Et donc, puisque c'est lui qui transporte l'oxygène, étant donné que toutes ces parties de tous les organes sont bouchées, donc ça crée une inoxygénation des tissus.
Ça veut dire que l'oxygène n'arrive plus,
il n'y a plus de circulation dans ces tissus. Et donc ces tissus-là meurent petit à petit. Ils meurent petit à petit. Et donc les complications, on a au niveau des yeux, cette complication est beaucoup dans la forme SS et la forme SC surtout. On a même les priapismes chez les hommes. Ça aussi sont des complications. Tu vois, le jeune garçon qui reste en érection, donc ça c'est le priapisme. C'est une complication de la maladie de drépanocytaire. On a aussi les AVC, ce sont des complications.
Alors, en Côte d'Ivoire, quelle est la prise en charge de la maladie? C'est vrai que Maïmouna Fondio en a parlé dans son témoignage.
La prise en charge, nous, on recommande au moins, pour tout drépanocytaire, qu'il ait au moins une consultation mensuelle. Son médecin doit le connaître. Et pour pouvoir le connaître, il faut qu'il soit fréquent au niveau du centre de santé. Donc une fois par mois, même qu'il ait une crise, qu'il n'ait pas de crise, il doit venir voir son médecin. Il vient voir son médecin, ils font le point pour qu'on puisse déterminer. Je vous ai dit qu'il y avait les formes anémiques. L'anémie est permanente chez le drépanocytaire. Mais cette anémie est variable d'une personne à l'autre. Chaque drépanocytaire a ce qu'on appelle son taux d'hémoglobine de base. Donc on peut retrouver un drépanocytaire qui vit bien avec ses 7 grammes d'hémoglobine, alors qu'on sait que la normale chez une personne, peut-être c'est de 12 grammes. Mais le drépanocytaire, lui, là, c'est 7 grammes. Il vit bien avec ses 7 grammes. Mais c'est au vu des consultations de routine qu'on peut savoir que tel drépanocytaire, lui, son taux d'hémoglobine de base, c'est 7. Et à d'autres, leur taux d'hémoglobine de base, c'est 9. Et à d'autres aussi, c'est 10. Quand il descend en dessous de ces taux-là, on sait qu'il y a problème. Et on doit le transfuser si nécessaire. Mais quand il n'a pas fait ce suivi de routine, s'il y a un médecin qui le voit avec ses 7 grammes, il va s'alarmer. Il va dire, oh, il est anémie. Il va s'affoler. Alors que lui, il vit bien avec ses 7 grammes. Donc, c'est la consultation de routine. De façon mensuelle, qu'il soit en crise ou pas, il faut qu'il vienne faire sa consultation de routine. Et au cas où il se sent mal, s'il a une fièvre, automatiquement, s'il n'y a pas de service d'urgence, il cherche à baisser sa température avec les moyens au vu des consultations qu'on lui donnera et il vient automatiquement voir son médecin. Parce qu'il ne faut pas négliger tous les signes que présente le drépanocytaire. La prise en charge rapide de tous les signes qu'il présente donne un bon résultat au niveau de la guérison du mal qu'il va présenter dans son évolution normale.
Vous avez parlé de fièvre, il faut faire baisser la fièvre. Mmh. Est-ce que la fièvre est un facteur déclencheur de crise?
Oui, la fièvre est un facteur déclencheur. Avec la fièvre, ces globules rouges vont vite se casser. Pour quelqu'un qui, dans un état normal, il est à 7 grammes, et ses globules rouges vont se casser, il va se retrouver facilement avec un taux de 5 grammes. Donc on va se retrouver dans une situation de transfusion d'urgence. Or, la transfusion chez le drépanocytaire obéit à une certaine règle. Comment faire pour trouver le sang adéquat pour pouvoir le transfuser avec toutes les règles immunologiques qu'il faut pour ne pas encore lui créer d'autres problèmes. Donc, la fièvre, c'est quelque chose qu'il faut redouter chez le drépanocytaire.
Alors, nous y sommes, nous restons en tout cas sur ce plan de transfusion sanguine dans la prise en charge de la drépanocytose. Mmh. Son importance?
Le drépanocytaire vit, je pourrais dire en guillemets, vit grâce au sang des autres, grâce à la transfusion. Surtout dans les formes SSFA2 et dans les formes SFA2. Ils vivent uniquement par la transfusion. Parce que même les complications dont on parlait tout à l'heure, la prise en charge de ces complications, c'est la transfusion. La transfusion accompagne le traitement médical. Il faut mettre le sujet drépanocytaire dans un état d'un sujet AS pour qu'il puisse surmonter le cap de sa complication. Je vous ai dit tantôt que le sujet qui est AS, c'est un porteur sain. Donc nous, pour pouvoir monter le cap de la complication, on le met dans le tas d'un sujet AS. Ça veut dire que c'est des transfusions, c'est des échanges transfusionnels. On le vide pratiquement de ses globules rouges qui portent le drépanocyte et on lui apporte du sang frais pour que son état soit celui d'un sujet AS pour pouvoir guérir de ses complications. Les ulcères de jambes, on ne peut pas traiter un ulcère de jambe sans la transfusion. On ne peut pas surmonter le cap d'une nécrose débutante sans la transfusion. Le priapisme sans la transfusion, ce sont des complications qui sont accompagnées par la transfusion.
Dans votre cas, Maïmouna Fondio, vous avez sûrement bénéficié de transfusions sanguines.
Effectivement, j'ai bénéficié d'énormément de transfusions sanguines. Il est tellement important pour nous que la population ivoirienne sache que le don de sang, il est important. Parce que c'est grâce à ça que nous, nous vivons. Docteur l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas traiter des complications sans transfusion sanguine. Et moi, j'ai fait plusieurs complications, j'ai parlé de certaines. Et tout ça, c'est traité avec les échanges transfusionnels, c'est traité avec la transfusion sanguine. On ne peut pas guérir sans ça. Donc, il faudrait qu'il y ait vraiment du sang disponible au niveau de la Banque nationale de transfusion sanguine, pour que nous aussi, on puisse bénéficier de soins adéquats.
Docteur Kwame, non, la prise en charge est coûteuse, en tout cas selon Maïmouna Fondio que nous avons sur le plateau.
Oui, pour quelqu'un qui doit venir à l'hôpital tous les mois, c'est déjà un coût, parce que ces patients-là sont obligés de faire face aux soins par leur poche. Et lorsque une famille se trouve avec un ou deux enfants, c'est compliqué. Parce que les consultations de routine reviennent à peu près, avec les médicaments, reviennent à peu près à 35 000 francs mensuels. Les médicaments que nous leur donnons, c'est de la vitamine B9, l'acide folique, qu'ils prennent pour pouvoir augmenter leur taux d'hémoglobine. Et il y a aussi l'hydroxyurée, qui est préconisée chez les drépanocytaires, qui permet d'augmenter la fraction F. Si la fraction F augmente, le S diminue pour améliorer leur confort. Voilà, ce sont ces médicaments qu'on leur donne. Il n'y a pas de risque zéro dans tout ce qui est prise médicamenteuse, mais ces médicaments sont des médicaments qui sont faits pour les accompagner, pour améliorer leur confort de vie. Et lorsqu'il faut faire face à une maladie qui se greffe sur la consultation de routine, ça fait beaucoup. Et les échanges transfusionnels, s'il est admis en programme d'échange transfusionnel, une transfusion mensuelle avec toutes les analyses qui accompagnent, c'est environ 20 000 francs mensuels, en plus des 35 000 francs. Donc on s'en va dans 55 000. Et ça, c'est les échanges manuels. Et nous recommandons de plus en plus les échanges sur machine. Les échanges sur machine, c'est plus adapté pour le drépanocytaire, parce qu'on a la machine qui extrait les globules rouges, uniquement que les globules rouges.
Ce qui n'est pas le cas avec la méthode manuelle.
N'est pas le cas avec la méthode manuelle.
D'accord.
La méthode manuelle, et là, on est un peu limité avec la méthode manuelle, parce que, je vous ai dit tantôt, ils peuvent être à des taux très bas. Quand le taux est bas, on n'est plus dans une situation d'échange. On est dans une situation de transfusion, tout simplement. On n'est pas très efficace. Or, malgré si le taux est faible avec la machine, on peut faire, on est à l'aise, la machine extrait les globules rouges, elle réinjecte, elle extrait, elle réinjecte. Tout se passe bien. Mais quand on est dans une situation où le taux d'hémoglobine est bas, on ne peut pas se risquer à faire une saignée manuelle au risque de perdre notre patient. Donc on préfère faire les transfusions simples, tout simplement. Donc la méthode par machine est une méthode qui coûte environ 250 000 francs la séance. C'est vrai que ça paraît beaucoup, Mais ce prix a été vraiment, vraiment étudié. Moi, j'ai fait un stage en Europe où la séance coûte 1050 euros. Donc, on est dans les 700 000 francs la séance en Europe. Mais là encore, là-bas, c'est supporté par une prise en charge à 100%. Mais ici, le Centre national de transfusion sanguine a fait vraiment beaucoup d'efforts pour accompagner ces patients-là. On fait la séance à 250 000 francs.
Et combien de séances pour qu'un malade puisse se remettre sur pied?
On va en général pour un début à 6 séances. C'est-à-dire une séance, ça dépend de la complication que le malade va présenter. On peut aller à une séance toutes les 4 semaines ou quelquefois à une séance toutes les 3 semaines. En fonction de l'évolution, on peut espacer les séances toutes les 6 semaines.
Il faut quand même prévoir un peu plus d'un million.
Voilà, un peu plus d'un million. Sans compter, c'est pas parce qu'on fait les séances aussi que le malade ne va pas présenter son paludisme ou bien ses infections. Il faut faire face à tout ça. Donc, c'est compliqué pour nous souvent, en tant que praticiens, de regarder nos patients. On se met un peu à leur place, c'est difficile. Donc, à l'unité de thérapeutique transfusionnelle du centre de transfusion sanguine, c'est un peu une cellule famille. Donc, on essaie de les accompagner comme on peut. Voilà.
Vous avez dit à l'entame de notre temps de discussion que la drépanocytose, on naît avec et on meurt avec.
C'est ça.
C'est vraiment très fort.
Oui.
Aucun espoir de vaincre la maladie un jour?
Comme je vous l'ai dit, c'est une maladie génétique. Il y a des espoirs avec la greffe de moelle. Ce sont des interventions qui sont assez lourdes.
Alors Maïmouna Fondio, pour revenir à vous, est-ce que vous n'avez jamais été victime de préjugés?
Tout le temps, parce que c'est une maladie handicapante, mais qui est invisible. Voilà. Ici, quand on dit quelqu'un handicapé, on doit pouvoir voir cet handicap-là. Mais chez le drépanocytaire, c'est le malade qui va faire une crise toute une nuit. Au petit matin, il se sentira bien, la crise est passée. Et le matin, tu fais quoi? Tu restes dormi, te reposer ou tu pars au travail? Les gens ne comprendront pas. Et la drépanocytose, c'est une maladie imprévisible. Elle peut survenir à n'importe quel moment. Tu ris, 30 minutes plus tard, tu pleures et tu es transporté à l'hôpital. Ça va sembler fou, mais c'est... Pour quelqu'un qui n'a pas côtoyé un drépanocytaire, il ne peut pas comprendre. Souvent, ils te disent que c'est de la comédie. Elle riait tout à l'heure. Moi, par contre, à l'école primaire, je souffrais beaucoup de discrimination parce que je n'étais pas assez sportive puisque j'étais tout le temps essoufflée de toutes les façons. Donc, j'étais dispensée. Mais les jeux avec les autres amis, ils ne voulaient pas parce que je ne pouvais pas les suivre. Deuxièmement, tu es tout le temps absente à l'école. Aujourd'hui, tu viens, demain, tu ne viens pas. C'est une année scolaire bancale. Tu ne termines jamais l'année scolaire. Tu la prends en cours, tu ne la termines pas. Et tu dois composer. Quand les enseignants, les professeurs ne comprennent pas le fait que ces malades-là soient souvent absents, et ils leur donnent des zéros parce qu'il a manqué un devoir, pour eux, c'est fait sciemment. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas toutes les crises qui emmènent le drépanocytaire à l'hôpital. On apprend à gérer certaines crises à la maison. Comme je vous l'ai dit, au cours de la nuit, tu as eu des douleurs toute la nuit, tu as pris tes anti-inflammatoires, tu as pris tes calmants, ça s'est calmé. Mais le matin, tu te sens épuisé, tu ne peux pas te rendre à l'école. Tu n'auras pas de billet de repos maladie. Mais à l'école, tu devras justifier ce jour d'absence-là. Tu fais comment? J'ai eu un de mes membres qui a été littéralement chassé de l'école parce que chaque fois il devait marcher, il a des complications au niveau de la hanche, il a la nécrose de la hanche, les deux têtes fémorales, donc du coup c'est les deux pieds, il a mal. Et sa classe est en hauteur, il doit monter deux étages pour atteindre sa classe. Et chaque fois, quand il va une semaine, il est malade. Après, le proviseur dit c'est un feignant, il a trop d'absence, on le voit toujours nonchalant, c'est pas bon pour leur image, donc ils veulent le renvoyer. Pourquoi? Il est malade. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout le monde doit avoir accès à l'éducation. Voilà.
C'est aujourd'hui votre combat au niveau de l'ARTC.
Oui, ça fait partie de nos combats. Mm-hmm. Parce que nos combats sont multiples, mais mm-hmm. c'est très important pour nous aujourd'hui qu'au niveau de l'enseignement, on tienne compte de ces enfants qui ont des maladies chroniques, qui ne peuvent pas toujours être à l'école, qu'on aménage un emploi du temps pour qu'ils puissent bénéficier de rattrapage de devoirs, qu'on ne leur mette pas des zéros parce qu'ils ont été absents à un ou deux devoirs.
Mais qu'est-ce que vous avez justement réussi à faire pour les drépanocytaires au niveau de votre association?
On a essayé de rentrer déjà en contact avec ces écoles où il y avait des difficultés. Mmh. Rencontrer les dirigeants de les directeurs, parler un peu, sensibiliser sur la drépanocytaire.
Est-ce que vous avez l'impression que le message passe ou pas?
Oui, parce que beaucoup ne savaient pas. Beaucoup se focalisaient sur des idées reçues. Et quand on va vers eux, qu'on leur parle de la maladie, on explique. Généralement, l'information est bien accueillie. Mais il y a énormément d'écoles. Et c'est pas qu'à Abidjan, il y en a à l'intérieur du pays. Donc le travail est encore vaste et on espère vraiment pouvoir avoir la force de mener à bien ce combat jusqu'au bout.
D'accord. Docteur Kwame Nant, Sidonie, on va terminer notre temps d'échange. Quelles sont les recommandations que vous pourriez faire aux auditeurs pour éviter de transmettre la maladie?
On souhaiterait quand même que le dépistage soit fait de façon systématique, surtout dans le bilan prénuptial. Et il faut permettre à tout un chacun de pouvoir faire son dépistage. C'est-à-dire que les chiffres que nous avons sont un peu dépassés. Donc il faut qu'on puisse refaire le dépistage au niveau national pour avoir les bons chiffres. Et on souhaiterait quand même avoir un centre de prise en charge de la drépanocytose. Parce qu'on n'a pas un centre en tant que tel. Il faut qu'on ait un centre qui regroupe toutes les spécialités qu'il faut. Parce que le drépanocytaire est quelqu'un qui est pris en charge par plusieurs spécialités en fonction des complications qu'il va présenter. Et il faut aussi, si possible, que la prise en charge de la drépanocytose soit subventionnée par l'État. Parce que quand tu côtoies ces malades, quand tu es avec eux au quotidien, tu te rends compte de la difficulté de la prise en charge de la drépanocytose. Nous sommes souvent limités dans les thérapeutiques à administrer parce qu'il n'y a pas de prise en charge. On est obligé de voir jusqu'à où le patient peut payer pour pouvoir faire certains soins. Donc s'il y avait une prise en charge à 100% de la maladie, je pense bien qu'on pourrait améliorer le confort de vie de beaucoup de personnes. Voilà. Ceux qui arrivent à surmonter souvent la complication, c'est ceux qui ont une assurance maladie, ceux qui ont les moyens pour pouvoir le faire. Donc il faudrait quand même qu'il y ait un centre de prise en charge. Et si possible, qu'il y ait un programme de santé dédié à la drépanocytose. Cela arrangerait beaucoup le suivi de cette maladie. Quoi qu'on dise, la drépanocytose est un problème de santé publique.
D'accord, je vous remercie, docteur. Maïmouna Fondio, pour votre mot de fin.
Déjà, docteur a cité tous nos objectifs. Hein. Tout ce qu'elle a cité, c'est ce qu'on attend vraiment de nos pouvoirs publics, de nos gouvernants. Maintenant, pour nos populations, on demande vraiment de se sensibiliser, de se dépister, de vraiment accepter les différences. Parce que c'est ça aussi. Un drépanocytaire ne doit pas être victime de stigmatisation, de préjugés, comme il ne va pas durer. On ne le scolarise pas parce que c'est de l'argent perdu dans quelqu'un qui ne va rien nous apporter plus tard parce qu'il va vite mourir. Non. Tout enfant malade ou bien portant a droit à l'éducation. Et aussi, on a besoin que les parents qui ont des enfants malades ne démissionnent pas. Voilà. C'est pas une maladie qui est seulement transmise par la mère. Mais c'est une maladie qui est transmise par les deux parents, c'est-à-dire le père et la mère. Donc, vous avez un enfant drépanocytaire, ok, mais on se serre les coudes et on le soutient. Aujourd'hui, moi, j'ai une famille formidable qui me soutient à tout bout de champ. C'est pour cela que j'ai la force de me battre chaque fois. Et quand on me voit, c'est l'espoir que les personnes donnent aux malades de la drépanocytose. Et c'est l'image que je voudrais renvoyer. La drépanocytose, quoi qu'on dise, c'est difficile, mais ça n'est pas une fatalité s'il y a une prise en charge adéquate. Et donc, pour toutes les personnes atteintes de cette maladie, il ne faut pas se décourager. Il faut vraiment pouvoir se battre et puis pouvoir avoir accès à ces soins. C'est pas facile. On rencontre de nombreuses personnes vivant avec cette maladie qui viennent demander de l'aide, ne serait-ce que l'acide folique. Donc, vous imaginez qu'ils ne peuvent même pas rendre visite au médecin une fois par mois. Ça, c'est évident. Donc, il est important pour nous que cette prise en charge médicale, psychologique soit gratuite et accessible, autant pour les malades à Abidjan que pour les malades à l'intérieur du pays, gratuitement si possible.
D'accord. Espérons que votre cri de cœur sera entendu. Maïmouna Fondio, rappelons que vous êtes la vice-présidente de l'association des drépanocytaires et thalassémiques de Côte d'Ivoire et nous avons eu également votre témoignage en tant que malade de la drépanocytose. Encore merci. Et docteur Kwame Nansidoni, hématologue au CNTS, le Centre National de Transfusion Sanguine. Merci docteur Kwame Nansidoni. En tout cas, avec vous, nous avons aujourd'hui parlé de la drépanocytose.
Merci.
C'était sujet de discussion.
Présentation Sonia Nzian.